F-I.
Salut, c'est Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Avec Simon Decreuse, nous sommes rentrés de vacances et comme chaque année, depuis 4 ans, nous sommes partis à Perpignan, d'où je vous parle en ce moment, pour assister à Visa pour l'image, le festival international de photojournalisme. Je ne vous cache pas que malgré le soleil de Perpignan, cette édition se déroule dans une atmosphère grave. Les guerres, les assassinats de journalistes et de civils, l'absurdité d'un monde dont rien ne semble atténuer la violence jette un voile d'inquiétude et de rage parmi les participants et également dans les propos du directeur du festival, Jean-François Leroy, qui chaque nuit anime la soirée de projection.
La nausée, le dégoût. Pardon de commencer ainsi cette soirée, mais c'est tout ce que nous ressentons. Barbarie, horreur, cruauté, sauvagerie, bestialité, inhumanité, lâcheté, on manque de mots. C'est aussi un mot qui s'applique à eux. Nous avons appris ce soir l'exécution du journaliste Steven Sotloff par les djihadistes de l'État islamique.
Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité est au diapason de l'ambiance qui règne ici. Nous sommes cette semaine avec le photographe et web documentariste Samuel Bollendorf. Il vient de recevoir le Visa d'or France 24 RFI du web documentaire pour Le Grand Incendie, un film interactif qui raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui ont choisi d'exprimer leur désespoir en s'immolant par le feu en public en France.
10h12. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour moi, car je vais me brûler à Pôle emploi. J'ai travaillé 720 heures, et la loi, c'est 610 heures. Et Pôle emploi a refusé mon dossier.
Un drame effroyable, un chômeur en fin de droit s'est immolé tout à l'heure devant l'agence Pôle emploi de Nantes.
Ce matin, vers 9h30 à Saint-Priest, un homme d'une soixantaine d'années s'est aspergé d'essence avant de mettre le feu.
Nouveau suicide chez France Télécom Orange. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu.
Une professeure a tenté de s'immoler par le feu ce matin dans la cour de lycée Jean Moulin.
Ce que je voulais, c'était protester. Et je voulais que ça se fasse dans un coup d'éclat.
En France, une personne s'immole tous les 15 jours par le feu sur la place publique. C'est sur cette phrase et cette information déconcertante que s'ouvre Le Grand Incendie, le web documentaire signé Samuel Bollendorf et Olivia Collot. Le Grand Incendie est une œuvre très simple, à l'esthétique sobre et efficace. Elle raconte l'histoire de celles et ceux qui se sont immolés par le feu en France pour se faire entendre. Le Grand Incendie vient de recevoir le Visa d'or du web documentaire, un prix remis à Visa pour l'image, à Perpignan, où nous nous trouvons en ce moment, une récompense initiée par France 24 et RFI. Chaque année, depuis 4 ans, nous consacrons notre émission de rentrée aux lauréats de ce prix. Et pour cette édition, nous sommes particulièrement fiers de t'avoir avec nous, Samuel Bollendorf. Bonjour.
Bonjour.
Je dis que nous sommes fiers parce que c'est la première fois que tu obtiens le Visa d'or du web documentaire, alors que ton travail et ton rôle de pionnier dans cette nouvelle forme d'écriture auraient mérité cette distinction depuis bien plus longtemps. Tu es d'accord, j'imagine ?
L'idée de mérite, non. D'ailleurs, ceux qui l'ont eu avant, c'était aussi largement mérité.
Il y a une explication simple, c'est que tu as fait longtemps partie du jury, tu l'as même présidé, tu as fait partie de ceux qui sélectionnaient aussi les web documentaires, donc c'était délicat de te récompenser toi-même.
Absolument, et puis c'est vrai que un des documentaires qui fait date et sur lequel j'ai acquis cette espèce de légitimité, c'est Voyage au bout du charbon, qui est à l'origine de la création de ce prix en fait. C'était avant. J'aurais adoré concourir avec Voyage au bout du charbon, mais c'était avant.
Alors on va reparler dans quelques minutes de tes productions passées, avec notamment donc Voyage au bout du charbon, cette œuvre de 2008 consacrée aux mineurs en Chine, une production qui a largement participé d'ailleurs à l'éclosion de la forme documentaire sur Internet, avec aussi À l'abri de rien, que j'aime beaucoup, qui raconte le quart-monde, la misère et particulièrement le mal-logement en France. On va reparler de tout cela et certainement aussi de ta vision de la narration sur le web. Avant cela, on va revenir sur Le Grand Incendie. Cette œuvre s'ouvre sur la lecture d'une lettre signée Rémi Louvradou, En fond, il y a la photographie du flanc d'un bâtiment. On va écouter cette lecture. Avant cela, je veux bien que tu nous expliques de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette scène ?
C'est le lieu de l'immolation, ce lieu vide sur lequel on s'est arrêté la première fois. Je crois que d'abord, l'histoire de Rémy Louvradou, c'est celle qui nous a interpellés. C'est une des rares qui a été un petit peu médiatisée parce qu'elle a été prise dans la vague des suicides de France Télécom. Et c'est à partir de cette histoire qu'on a décidé d'enquêter. Et c'est donc sur ce lieu-là qu'on s'est rendu en premier pour nos repérages.
Ce lieu, c'est donc l'agence France Télécom à Mérignac où il travaillait, c'est ça ?
C'est ça, c'est l'agence France Télécom.
Vous avez choisi de le photographier de flanc. J'insiste parce que c'est une image très forte. Il y a une sorte d'ascenseur sur le flanc de ce bâtiment qui croise un balcon et du coup, ça donne une forme de croix.
Ça ressemble à un tombeau, effectivement, c'est assez impressionnant. Avant même qu'il puisse s'y dérouler un tel événement, c'est assez incroyable d'imaginer travailler dans cet édifice. Mais effectivement, c'est au pied de cette croix, au bord de l'emplacement du parking, que Rémy Louvradou, qui était préventeur à France Télécom, c'est-à-dire que il s'occupait de la prévention des suicides. Il était en charge d'essayer de comprendre cette vague de suicides et lui-même était tellement pas entendu qu'il en est venu à passer à l'acte et à s'immoler devant son agence.
Et donc le web documentaire s'ouvre sur une lettre qu'il a écrite, qui est interprétée par l'acteur Philippe Torreton, et donc sur cette image de bâtiment, sur le flanc de ce bâtiment en forme de croix.
Lettre ouverte à mon employeur et à son actionnaire principal. Monsieur le directeur, je souhaite réagir à propos de la vague de suicides auquel France Télécom Orange est confrontée actuellement. Quelle est la population touchée par ces suicides ? Des agents fonctionnaires de plus de 50 ans, avec mobilité imposée. Je suis dans ce segment-là. Je suis en trop. Je me présente rapidement. Activité dans un cadre de service positif, prise de responsabilité, harcèlement subi de mon N+1, scotché à un niveau 3-3, mise à la poubelle. Mon constat, il existe des personnes en situation à fort risque. Elles n'attendent plus aucun soutien. Elles n'attendent plus rien. Mes craintes, cette situation est endémique, du fait que rien n'est fait pour y faire face. Le suicide reste la solution. C'est triste. À qui profite ce crime ? Rémy Louvradou, préventeur à la direction des ressources humaines.
On vient donc d'entendre la voix de Philippe Torreton qui lisait une lettre écrite par Rémy Louvradou, qui est, comme tu disais, préventeur aux ressources humaines de France Télécom. Rémy Louvradou s'est suicidé le 26 avril 2011 sur son lieu de travail, devant son lieu de travail. Vous introduisez le web documentaire Le Grand Incendie avec cette tragédie qui est emblématique d'un phénomène social finalement peu visible et pourtant très inquiétant.
Oui, en fait, il s'est pas seulement suicidé, et c'était ça tout l'enjeu de notre travail, il s'est immolé par le feu sur la place publique. Et tout notre projet, c'était vraiment de travailler pas du tout sur la dimension intime du suicide, et on voulait pas rentrer dans l'intimité de la famille, même si on a rencontré sa famille, ses collègues, etc. Mais c'était vraiment de travailler sur la portée contestataire de ce geste. C'est un geste symbolique fort, qui est reconnu comme tel quand il se passe en Tunisie, au Tibet, enfin à l'étranger, et quand ça se passe en France, c'est toujours la fragilité psychique de celui qui est passé à l'acte qu'on met en avant, et derrière laquelle on se cache pour ne pas voir ou ne pas entendre la portée contestataire du geste.
Un geste qui a lieu tous les 15 jours en moyenne en France, alors qu'on n'a pas du tout cette impression, c'est très très peu visible. Comment ça s'explique, ça, de ton point de vue ?
Quand on a parlé avec Maurice Mimoun, qui est chef du service des grands brûlés à l'hôpital Saint-Louis...
Qu'on entend et qu'on voit dans le web documentaire.
Voilà, il nous avait dit, et il est revenu là-dessus, par ailleurs, il nous avait dit que quand il avait fait sa thèse, ou je sais pas, son mémoire de fin d'études, il y a quelques décennies, il avait fait ce travail sur Jan Palach, justement, qui s'était immolé à Prague. Et... il disait que à ce moment-là, les médias avaient une espèce d'accord qui était de ne pas en parler pour pas que ça en déclenche d'autres. Mais aujourd'hui, il a le sentiment que de toute façon, tout le monde est informé sur tout et que ça n'est plus la raison. Pourquoi on n'en parle pas ? Je pense que c'est parce que on ne les considère pas comme des actes contestataires et que les médias les traitent On en entend parler parfois, on a entendu parler de Pôle emploi aussi, mais vraiment le jour même, comme un fait divers, et la prise de parole du politique ou du PDG ou du responsable de communication qui va tout de suite se défausser sur une fragilité psychique du personnage, balaye toute analyse de l'événement et toute réception, tout écho, toute résonance du message et de l'éventuelle mise à la question du lieu et de la symbolique du lieu devant lequel ça s'est produit.
Pour servir cette histoire, pour servir ces histoires même, parce que dans le web documentaire, vous racontez plusieurs parcours de personnes qui se sont immolées, vous avez mis en place un dispositif assez impressionnant. Il y a une ligne de temps en bas de l'écran qui permet de naviguer dans les 5 actes de cette tragédie. J'imagine que vous avez fait exprès d'avoir 5 temps différents. On peut passer donc d'une partie à l'autre au choix. Les parties s'appellent ressources humaines, biens communs, services publics, non-lieux et... La partie finale, c'est le grand incendie. Au milieu de chacune de ces parties, il y a aussi des plans fixes sur les lieux choisis par les personnes qui se sont immolées. Et il y a une sorte de sinusoïde qui suit ce récit. C'est une manière de montrer le son. Et si on clique dessus, il y a l'image qui apparaît avec une vidéo qui est presque une photo vivante, c'est-à-dire un plan fixe où on voit la personne qui parle, qui explique.
Oui, pour nous, c'était vraiment, dès le début, très marquant. Quand on est allé en repérage, on s'est retrouvé sur ces lieux. C'était une place de parking, un bout de trottoir, une zone périurbaine. C'était des non-lieux, quoi. C'est des endroits devant lesquels on passe quotidiennement. Et si on ne sait pas ce qui s'y est passé, ils n'ont pas de sens. Et quand on sait ce qui s'y est déroulé, alors là, on ne peut plus les regarder de la même façon. Et ça, ça vraiment d'emblée fait partie des principes de travail. C'est qu'on s'est dit qu'il fallait donner à voir le vide et l'absence de traces de ces lieux et leur ordinaire. Et puis ensuite, entendre les récits des témoins ou des médias, hein, puisque c'est ces deux voix qu'on confronte.
Il y a en fait deux sinusoïdes pour chaque écran, pour chaque plan, donc sur fond blanc. En bas, c'est le témoignage intime, brut, des proches, des personnes qui ont soigné. Et en haut, il y a le témoignage froid, peut-être, le récit, soit d'hommes politiques, soit de médias.
L'idée était vraiment de confronter un discours officiel et un discours de témoins, de collègues qui n'avaient pas pu être entendus. Et c'était très important ensuite de redonner à voir et à vivre ce lieu, cette fois en vidéo, une fois qu'on avait entendu ces récits, qu'on avait éventuellement même pu les confronter.
On va écouter dans un instant un autre extrait donc qui mêle finalement la ligne, les deux lignes de vie, les deux sinusoïdes, celle des médias et celle des proches. Avant cela, pourquoi avoir choisi de rendre l'image optionnelle, c'est-à-dire qu'on puisse soit écouter le web documentaire en ne voyant que ces sinusoïdes bouger, puis des petits textes qui expliquaient en train de parler, ou en cliquant dessus, avoir l'image de la personne, ou même des médias qui parlent?
D'abord, c'était très important pour nous de... C'est vraiment une histoire de parole, hein. C'est des messages qui n'ont pas été entendus, c'est des messages qui ont pris la place d'autres. L'enjeu était de fabriquer un dispositif qui permette de réelles situations d'écoute.
Second extrait du web documentaire tiré de la partie ressources humaines qui concerne plus directement l'histoire de Rémi Louvradou.
Et le voilà convoqué au ministère du Travail. Une première pour le patron de France Télécom. L'ingénieur de formation va devoir s'expliquer devant toute la presse pourquoi tant de suicides dans le groupe. À ses yeux, une des causes, c'est le bouleversement vécu par l'entreprise elle-même.
C'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Toutes les solutions qui sont offertes à lui se sont avérées des impasses. Y mettre fin à ses jours dans un endroit où on a travaillé et qui appartient à l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est quand même bien délimiter la raison pour laquelle on fait cet acte.
Délocalisation, sous-traitance, tout est fait pour réduire les coûts. En 2005, plan massif de suppression d'emplois, 22 000 personnes sont poussées vers la sortie, un salarié sur quatre.
En plus, choisir ce mode de suicide, qui est l'immolation par le feu, c'est aussi... indiquer qu'on se situe dans une ligne de contestation forte.
Ce document est un compte-rendu d'une réunion de cadres de France Télécom d'octobre 2006. L'ex-PDG Didier Lombard évoque clairement l'objectif de supprimer 22 000 emplois. En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte.
Il m'avait parlé d'un mail qu'il avait reçu, je ne sais pas de qui, Mais on lui a fait comprendre que là, c'était son intérêt de laisser tomber.
La raison pour laquelle aujourd'hui je communique, et je vais le faire dans la journée encore plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde.
Cette mode du suicide qui choque tout le monde, ces propos malheureux, maladroits étaient de Didier Lombard, qui était à l'époque où il les a prononcés patron de France Télécom, c'était en 2009. Comment vous est venue l'idée de traiter ce mode de suicide, parce qu'on entend aussi ce mode de suicide de la voix de la femme de Rémi Louvradoux, qui dit ce qui est frappant aussi, c'est le mode de suicide qu'il a choisi, l'immolation. Comment ça vous est venu l'idée de parler de l'immolation en France?
D'abord parce qu'on a entendu parler de l'immolation de Rémi Louvradoux. Alors il se trouve que avec Olivia, on était, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, et on était dans l'idée d'essayer de réfléchir à un documentaire qui se serait déroulé en huis clos dans un service de Grand Brûlé. Donc on était évidemment interpellés par cette histoire. Et puis on a entendu une seconde histoire, et là on s'est mis à chercher les cas d'immolation réellement. Et on s'est rendu compte que on comptabilisait un tous les 15 jours sur l'année 2011. Une fois qu'on avait fait ce constat-là, c'était impossible de ne pas travailler là-dessus. Mais après, il y avait des enjeux qui étaient immenses. D'abord, il y avait vraiment l'enjeu du respect de la mémoire de ces individus, des familles. Il y avait vraiment cette ligne que nous ne voulions pas franchir à l'idée de travailler sur l'immolation et pas sur la notion de suicide, pour ne pas rentrer dans une histoire un peu pathos qui est en plus tellement complexe si on rentre sur ce terrain-là. Donc il y avait cette idée contestataire. Il y avait évidemment une dimension très politique et sociale qui touche au monde du travail.
Il y a un côté tabou peut-être dans cette histoire. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Est-ce que vous l'avez vécu dans votre enquête? Est-ce que ça a été difficile d'enquêter sur ce sujet? Quand on le regarde, ça a l'air assez fluide. Il y a toutes sortes de personnes, des proches, même parfois des personnes qui se sont immolées qui témoignent. Donc on ne sent pas du tout la difficulté possible. Mais est-ce que ça a été compliqué?
Alors plus que tabou, je dirais omerta en fait. C'est-à-dire qu'il y a une chape de plomb qui s'abat sur les personnels d'abord. C'est-à-dire que les entreprises tentent de contrôler la communication. On a des gens qui ont voulu témoigner de façon anonyme, sauf qu'on a travaillé pendant 2 ans. Donc avec le temps, ils ont décidé aussi de prendre la parole à découvert.
Il y a beaucoup d'employés. Alors je cite France Télécom, mais il y a beaucoup d'employés de France Télécom, notamment dans la première histoire, qu'on voit, y compris des supérieurs de Rémi Louvradoux, qui parlent à visage découvert.
Et qui racontent comment ils avaient des ordres de mise en œuvre du management. Combien aussi les lettres de Rémi Louvradoux sont arrivés au plus haut de la direction et sont redescendus avec juste l'idée qu'il fallait le surveiller, mais qu'il ne fallait pas lui répondre.
Des lettres du type de celles qu'on a entendues au début, qui étaient des lettres extrêmement explicites.
Absolument. Et c'est vraiment cette fabrication de l'isolement était effroyable. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est combien il y avait un déni de l'événement de la part de l'entreprise.
Ce web documentaire, cette œuvre a été diffusée il y a plusieurs mois. Quels ont été les effets, les conséquences, quelle a été la réception de cette œuvre?
D'abord, il y a la restitution auprès des familles qui étaient tous là pour la première du documentaire et qui aujourd'hui même sont à nos côtés, sont heureux, émus. Je pense que ils ont accepté de livrer vraiment une part de leur traumatisme aussi, dans l'espoir que ça serve à quelque chose. Donc le fait d'avoir à nouveau une visibilité sur le projet, c'est important. Et c'est aussi pour ça que le fait d'avoir eu ce partenariat avec Le Monde au moment de la sortie, c'était formidable parce qu'il était en ligne sur le site de France TV Info, parce que c'est France Télévisions Nouvelles Écritures qui l'a produit, mais il était aussi en ligne sur Le Monde et Le Journal. Parce que nous avons quand même sorti cette statistique incroyable, on a fait sa une et 3 pages dans le papier. Ça voulait dire que tous, les ministres, les PDG, les directeurs de cabinet, les conseillers, ils savent.
On marque une courte pause, Samuel. On se retrouve de l'autre côté du flash. Nous serons toujours à Perpignan, à Visa pour l'image, pour parler de ton œuvre en particulier et de ton œuvre en général. À tout de suite.